and the wind's 120 knots to the west.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh, dude.
Radio X.
Bon début de soirée sur les ondes de choix 98.1 Radio X, édition Radio X-Files du vendredi 2 mai 2025. Et non, ce soir, je n'ai pas d'extrait audio pour lancer notre thématique de la soirée. On a pris notre ordre qu'on tient depuis maintenant 2 ans, on l'a mise de côté. Je n'ai pas non plus de Comrex à aller chercher. Il est avec moi en studio pour la 2e fois. C'est sa visite annuelle, comme le Père Noël, Christian Page.
Bonsoir, Camille.
Bonsoir. Très content. Je me suis habillée propre pour t'accueillir. Puis je me suis 31. Maquillée aussi. Je suis mise sur mon 31 de passage à Québec pour une conférence samedi.
Oui.
Et tu as connu l'enfer des travaux du boulevard Laurier en t'en venant à la station. Yes. Et mais tu t'es senti comme à Montréal.
Oui, comme je te disais juste avant d'entrer en onde, je me suis dit, est-ce qu'on a eu un glissement spatio-temporel? Et je me suis retrouvé à Montréal. Parce qu'effectivement, la dernière fois où j'étais venu, il n'y avait pas ces importants travaux sur Laurier. Et en débarquant du pont Pierre-Laporte, je suis tombé sur le chantier en question. Je me suis dit, mon Dieu, vraiment, on voyait un peu des petits airs de Montréal, là.
C'est vrai. On commence tranquillement, pas vite, mais c'est pas encore chose faite là, ouais. À 100%. Mais très contente de te retrouver en studio. Je suis toujours une petite espionne parce que j'ai aussi, oui, l'implication avec toi, avec Suspect X, Radio oui. X-Files, mais je suis également dans le Spacecast la semaine et je t'ai entendu parce que tu es avec mes collègues du Retour et Dani Hull dire que tu avais une certaine nervosité retour oui. sur les planches pour une conférence à Québec. C'est la première de ce que je comprends. Est-ce que la dernière était celle où tu as parlé des tueurs de l'occulte de ton premier livre?
Oui, je crois que oui. Écoute, ça nous amène, c'est ce que je mentionnais avec nos collègues de l'après-midi. La dernière fois où j'ai fait une conférence, c'était avant la période de COVID.
Oui.
Et ensuite, il y a eu la maladie qui venait s'ajouter. Et donc, je n'ai pas refait de conférence depuis. Ce qui me rend nerveux, donc j'espère que les gens qui seront en salle demain seront indulgents.
Ah oui. comptez sur moi, sinon.
et parce que pour la simple raison que, bon, évidemment, les gens me connaissent, les gens savent que j'ai une mémoire tout à fait photographique. Mais l'âge peut-être, mais également la maladie, les traitements font que j'ai perdu un peu. Il m'arrive d'avoir des blancs de mémoire quand même. Et c'est un peu cette crainte-là d'être en milieu de conférence demain, dire, oups, j'ai un blanc, là. Mais bon, je pense que les gens seront indulgents et puis j'aurai ma feuille de route. Donc, je pense que ça devrait bien se passer. Mais c'est toujours un peu, après une longue période comme celle-là, il y a toujours un peu un stress. Même avant une période, avant cet arrêt, j'avoue qu'à chaque fois où je donnais une conférence, il y a toujours quelque part en dedans de nous ce questionnement. Est-ce que les gens vont apprécier? Est-ce que les gens s'attendent à plus, etc.
Le format balado et radio veut pas nous offre un certain mur. La télé aussi que tu oui. fais de façon hebdomadaire avec Salut Bonjour, on n'a pas la réaction en direct des gens.
Tout à fait.
C'est dur à expliquer dans le milieu des communications à des gens qui nous écoutent, nous disent ouais, mais pourquoi ça vous stresse, vous faites ça au quotidien. Non non, c'est vraiment une autre paire de manches. Mais Christian Page qui a des blancs de mémoire et j'ai la preuve ce soir, c'est aussi un Christian Page qui n'a aucune feuille oui. et qui a discuté avec moi dans le lounge pendant pratiquement 30 minutes, en me parlant un petit peu justement de la chronique de ce soir, de ce qu'on allait parler aussi en conférence oui. En fin de semaine. Aucune note, là, je pense que ça va bien se passer.
Ouais, je pense. C'est bien que tu le mentionnes. Hein, ce soir, on se fait une émission spéciale, Tueur de l'Occulte 2.
Oui, on se fait plaisir.
D'ailleurs, j'ai amené une copie de Tueur de l'Occulte 2 qu'on pourra faire tirer à un auditeur au cours de la soirée. Et c'était la belle occasion également de permettre aux gens qui, parce que je sais que la salle, dès que j'ai annoncé la conférence, dans les 48 heures qui ont suivi l'annonce, c'était déjà plein. Donc probablement que cet automne, je ferai une reprise. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent ce soir, qui sont à la maison, qui auraient envie de me poser des questions par rapport aux crimes occultes, ben, n'hésitez pas à le faire. Je vais essayer de répondre du mieux de mes connaissances à ce sujet-là. Et ce soir, on va parler un peu, si tu le veux bien, des crimes occultes, mais également de l'univers de façon très, très large. Hein, où est-ce que ça nous amène? Pourquoi, et là je parle pour moi, mais je parle également un peu pour toi, pourquoi est-ce que nous sommes aussi fascinés?
Fascinés.
Et pourquoi, dans le cas présent, pourquoi dans mon cas à moi, les crimes occultes sont si intéressants. Donc, on va regarder ça et on va aussi explorer, on va parler un peu de deux, parce que dans la conférence de demain, on va explorer l'ensemble des crimes à caractère occulte. On va essayer de regarder à la fois la psychologie de ces assassins, quoique je reste quand même en surface. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas criminologue non plus. Donc, et je sais que dans la plupart des cas où il y a eu des crimes à caractère occulte, on parle des grands... des assassins qui ont fait la manchette. Hein. Qu'on pense par exemple à Charles Manson, Richard Ramirez, le Night Stalker. Je sais qu'il y a des ouvrages entiers, il y a des publications qui ont été faites par des psychologues et des psychiatres, mais également des criminologues, qui se sont penchés sur ces grandes histoires criminelles, qui ont essayé de littéralement disséquer la psychologie de l'assassin. Donc, dans mon cas à moi, en conférence, je ne parle pas trop de la psychologie de ces individus. Par contre, je parle beaucoup de leurs liens par rapport à l'occulte. Parce que, et c'est juste avant qu'on entre en onde, on en parlait justement, dans les crimes sur lesquels qu'on va explorer demain, j'ai choisi, bien sûr, Richard Ramirez et David Berkowitz, alias le fils de Sam.
Est-ce que tu es allé dans tes chouchous aussi? Est-ce que tu te fais plaisir
en... Ah oui, j'avoue que... Écoute... Je ne veux pas reprendre tout ce qu'on s'est dit avant d'entrer en mais il y a quand même des
on
trucs...
On a fait une pré-émission.
Il y a quand même des trucs qui sont fascinants, hein, parce que je te disais justement, quand on, j'ai, en fait, la série de les conférences et les livres sur les crimes occultes sont en fait des prolongements de séries, d'une série de 4 ou 5 saisons de séries qu'on a fait à Canal D, qui ont ensuite été diffusées sur d'autres plateformes, comme Netflix, par exemple.
Oui.
Et quand j'ai décidé de faire cette série-là, c'était mon choix, hein, on comprend bien. Ce n'est pas une commande de Canal D. C'était une idée que j'avais en tête. On en parlait longuement. On était à ce moment-là à tourner de mémoire. Là, si je recule en arrière, on devait être en train de tourner la 2e ou 3e saison de Jeux mortels ou Quand les enfants tuent. Là, cette série. Et à un moment, moi, le phénomène des tueurs de l'occulte m'avait toujours passionné. Et puis, j'ai lancé l'idée. J'ai dit, moi, j'aimerais éventuellement qu'on fasse une série sur ces sujets-là parce que, déjà, on voyait le phénomène du true crime. Moi, j'utilise l'expression anglaise, mais c'est un peu devenu l'expression consacrée.
Déjà, à l'époque, ça commençait à...
Oui, on voyait déjà la montée de l'intérêt pour le true crimes. On avait du côté de la télévision anglophone. C'était pas encore arrivé ici en français. C'était avant Investigation, avant la chaîne Témoin. Mais on voyait du côté anglophone sur des chaînes, on voyait apparaître Investigation. D'ailleurs, ma série Dossier Mystère a été diffusée en partie sur Investigation du côté anglophone.
Et sais-tu ce qui est drôle, Christian, c'est de réécouter, j'ai une télé intelligente qui rejoue ces émissions-là et c'est de t'entendre, mais doublé en anglais puis entendre ta voix en français en dessous. Je dis, mais oui, c'est Christian!
Oui.
ça fait très drôle, mais oui. Ça joue encore sur des chaînes
absolument.
En continu.
Et donc, on voyait ce phénomène-là qui est en train d'apparaître. Et je me suis dit, moi, j'aimerais faire un truc. La télévision, déjà, on commençait à avoir des séries de plus en plus fréquentes sur les crimes. Hein. Je pense à des séries qui ont marqué ici au Québec là, sur les crimes, un tueur si proche, hein,
ouais.
Parce que c'était des crimes québécois. Donc, les gens ont senti une grande résonance par rapport à ça. Mais les crimes à caractère occulte m'intéressaient plus que tout autre pour la simple et bonne raison que la motivation nous amène complètement ailleurs. Moi, je me rappelle, j'avais une discussion à un moment donné, on se rappelle tous l'histoire de l'OTS hein, qui avait marqué aussi le Québec. On est au début des années 90.
L'Ordre du Temple solaire.
L'Ordre du Temple solaire. Et à un moment donné, j'ai enquêté sur l'histoire du Temple solaire. D'ailleurs, il fait l'objet d'un des chapitres dans mon livre « Les tueurs de l'occulte 1 ». Et les gens qui ont assisté à la conférence des tueurs de l'occulte 1, ceux qui étaient en salle, ont eu la chance ou la malchance de voir les images des médecins légistes quand on a trouvé les corps, notamment à Grand-Chur-Salvan, quand on sortait les corps. J'ai amené les téléspectateurs dans la salle d'autopsie où on a disséqué les corps. Donc, on voyait ces images-là. Des images excessivement choquantes. Et donc, pour Tueur de l'occulte 2, j'ai essayé de tempérer le voyeurisme macabre quand même un peu.
Okay.
Mais bon, je me rappelle quand j'avais fait cette conférence.
On entend le silence.
Ça, oui, on aurait pu entendre une mouche voler. Et je voyais des gens qui détournaient le regard là, de l'écran.
Okay.
Il y avait des scènes qui étaient choquantes. Mais quand j'avais enquêté sur l'affaire de l'Ordre du Temple solaire, à un moment donné, je me retrouve avec un des policiers qui avait enquêté sur... C'était dans la région de Trois-Rivières. Là, il y avait eu comme un deuxième transit. Il y avait celui d'abord en Suisse. Et ensuite, il y avait eu celui, deux ans plus tard, la famille Kebs ou quelque chose comme ça, qui était du côté de Trois-Rivières,
oui.
Sainte-Anne-de-la-Pérade ou un truc
dans
comme
ça. Dans ce coin-là, oui.
Et un des policiers me disait, un policier de la Sûreté du Québec, il me disait, tu sais, tu rentres, tu vois la scène de crime te parle, mais elle te parle une langue que tu ne comprends pas. Et c'est exactement ça. Les crimes à caractère occulte nous amènent dans des univers qui nous sont complètement étrangers. Et c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette série, c'est la raison pour laquelle je suis intéressé par le crime occulte. Parce que lorsque l'on parle d'affaires criminelles, de façon générale, les crimes sont généralement commis à peu près pour... les crimes ont à peu près toujours les mêmes dénominateurs communs. On tue par jalousie, on tue pour le sexe, on tue pour l'argent, on tue pour la vengeance. Donc, généralement, on va retrouver dans ces créneaux-là, ouais. L'ensemble, 90 % de la commission des crimes se fait en raison de ces motivations. Dans le cas du crime à caractère occulte, on est complètement ailleurs.
C'est une motivation extérieure.
Les motivations sont tellement aberrantes...
Intangibles.
..qu'il est pour nous très difficile de comprendre ce qui a amené ces gens-là à commettre un crime. Et il y a d'autres éléments qui sont beaucoup moins connus du grand public. On va en parler demain en conférence. Oui, je sais, je vais donner envie aux gens de venir à la conférence.
Est-ce qu'on peut mettre un écran géant dehors qui sort et t'écouter avec une chaise de camping?
Ouais. Il va pleuvoir, dit-on demain. Mais un des phénomènes qui est assez peu connu du public, c'est qu'également, c'est reconnu par le DSM-5. Donc, cet ouvrage, les gens se demandent de quoi il s'agit, le DSM. On va essayer de schématiser assez sommairement. C'est un peu comme un dictionnaire où on retrouve à peu près l'ensemble de tous les troubles du comportement et des troubles mentaux qui sont répertoriés par la psychologie et la psychiatrie.
Toujours un peu mise à jour. Je crois qu'on est rendu
au cinquième. À tout le moins, la dernière version que moi je connais,
c'est le cinquième. Okay.
Et dans cet ouvrage-là, évidemment, on fait les coins ronds un peu, mais par exemple, on a, si on regarde sous le par exemple, dans les S, schizophrénie. Donc, on regarde schizophrénie, on voit schizophrénie, on a un paragraphe qui nous décrit quelle est la maladie, quels sont ses symptômes.
Quels pourraient être les traits? Ici, il y a plusieurs traits dominants, on a un trouble officiel.
Voilà. Et là, ensuite, on expose un peu les troubles. Supposons, par exemple, qu'il y a 10 symptômes qui sont répertoriés. Bien, si vous avez 5 de ces 10 symptômes...
Vous commencez à scorer fort.
Votre médecin va vous dire, je pense que tu souffres de schizophrénie. Donc, on voit un peu comment ça fonctionne. Et il y a des troubles du comportement qui nous sont à peu près, nous, occidentaux, presque étrangers. Et ces troubles du comportement, on les rencontre assez souvent dans le phénomène des crimes occultes. C'est un phénomène qu'on appelle en anglais le cultural bond syndrome, le syndrome de lien culturel. Et ce syndrome de lien culturel, il relève en fait du magico-religieux. Le magico-religieux, lorsqu'on parle de certaines communautés, et on va en parler d'un cas en particulier demain, donc je vais le garder, lui, sous silence.
Parfait.
Mais lorsque j'avais fait ma conférence sur les tueurs de l'occulte 1, j'avais notamment évoqué les narco-satanistes qui avaient fait la manchette dans les années 80, parce qu'on a c'est une histoire qu'on appelle le massacre de Matamoros. On est au sud de la frontière américaine. En fait, on est à Matamoros, qui est une ville qui est pratiquement frontalière avec le Texas.
Est-ce que ça avait fait des petits un peu partout dans le monde? C'est-tu un phénomène mondial, les narcos?
Non, les narcos... C'est amusant parce qu'on a appelé les narco-satanistes.
C'est spécial.
Ça, d'ailleurs, je m'amuse souvent à dire, pour les médias, dès qu'il y a quelque chose d'un peu occulte, c'est toujours sataniste. Alors que dans le cas présent... Là où on est plongé dans un univers magico-religieux, en fait, on pratique une espèce de magie noire qui s'appelle le Palo Mayombe. Le Palo Mayombe est un dérivé d'une religion qui est tout à fait officielle, qu'on appelle une religion syncrétique. Ça peut paraître un nom étrange, là, mais les religions syncrétiques comme, par exemple, la Santeria ou le Vaudou, ce sont des religions... qui, pour différentes raisons sociales et culturelles, ont adopté des figures religieuses du monde chrétien. Et on peut le comprendre assez aisément, par exemple. Lorsqu'il y avait ces grands négriers qui amenaient des esclaves en Amérique, évidemment, ils faisaient le transfert de l'Afrique, on capturait des gens, et là, évidemment.
On remet les choses, je fais l'avertissement, remet les choses dans leur contexte historique.
Absolument, on n'est pas là pour encourager ce genre de pensée. Mais donc, les négriers arrivaient, les bateaux arrivaient pleins d'esclaves en Amérique, et là, ensuite, ils étaient envoyés dans des communautés, dans des colonies pour travailler comme esclaves. Évidemment, ces gens-là emportaient avec eux leurs croyances et leur culture. Mais évidemment, ils étaient vite mis au pas s'ils appliquaient cette culture-là. Parce que c'était considéré, on était dans un monde, on est au 17e, 18e siècle, la religion qui prévaut dans le monde occidental, c'est le christianisme.
Bien, sauf erreur, je crois que c'est comme ça que le procès des sorcières à Salem a commencé aussi, par des rites vaudous.
Oui, absolument. Donc, on va accuser Tituba, qui est la bonne... De Samuel Parrish, qui est un des curés de l'endroit, puis là, le pasteur de l'endroit. Et elle aurait initié la fille de Parrish et une de ses cousines à une espèce de rituel. Puis là, bien évidemment, il va y avoir un phénomène qui va faire un peu boule de neige. Et là, tout le monde va se mettre à... D'ailleurs, on a un phénomène justement de bound syndrome, de culture, de lien, un lien culturel ici. Quand les gens se mettent soudainement à avoir des crises d'hystérie.
Oui.
Évidemment, on peut toujours se dire, bien, une ou deux personnes vont se mettre à jouer le jeu, puis ils font... Mais est-ce que toute la communauté se met à jouer le jeu de la même façon? Et c'est là que le phénomène de ce lien culturel entre en jeu. Les liens culturels, ce sont des comportements qui nous sont dictés par la communauté. Par exemple, les gens qui vont aller à l'église, on le voit notamment aux États-Unis, avec les preachers qui sont très
colorés.
J'allais pas agressif, mais ils sont très présents et le discours est très chargé.
Oui.
Et là, on voit les gens en salle qui rentrent littéralement dans des états de transe. Ils ont les bras levés dans les airs. Il y a une espèce de mécanisme d'hystérie. Ces gens-là ne souffrent pas de troubles mentaux. On s'entend bien. Ces gens-là, ils ont une vie normale. Ils ne souffrent pas de troubles mentaux. Mais dans la communauté... Il y a une espèce de réaction commune, et cette réaction commune, elle est un peu dictée de manière inconsciente par la communauté en général.
C'est un effet d'entraînement, une escalade à un moment donné. Voilà. Quand on se place plusieurs à crier dans la même pièce, on va voir que ça va crier plus fort et de plus en plus fort.
Ce comportement-là, il est dicté par la communauté, en présence du prêtre, du pasteur, qui dit telle ou telle phrase, tel geste. On est conditionné. Et on peut rien faire contre ça. Le travail de déconditionnement, il est énorme. Donc, on est conditionné à réagir de telle ou telle manière. Mm-hmm. Dans le cas de nos satanistes, nos narco-satanistes, c'est amusant parce qu'en fait, on est dans une religion syncrétique. Là où je voulais en venir avec la religion syncrétique, c'est qu'on comprend que les esclaves qui étaient amenés en Amérique du Nord, s'ils continuaient de pratiquer leur rite, avec la culture et la vision qu'ils amenaient avec eux d'Afrique, par exemple, rapidement, ils étaient remis au pas et très souvent également châtiés pour avoir pratiqué ces rituels-là, qui étaient considérés comme des rituels païens. Donc, ce qu'ils faisaient, par exemple dans le vaudou, ils récupéraient des figures populaires du christianisme et ils leur attribuaient des personnalités propres au vaudou. Par exemple, Saint-Joseph devenait Baron Samedi. La Vierge Marie devenait Dambala ou Erzuli ou des trucs comme ça. Donc, ils transféraient leur propre Dieu ou leur déité, ils les transféraient dans des figures du monde chrétien. Donc, si le propriétaire terrien entrait dans une casbah qui était occupée par des gens, bien, il voyait devant lui une statue de Saint-Joseph, le petit Jésus, puis une statue de la Vierge Marie, puis il disait, mon Dieu...
Pas de nouvelles bonnes nouvelles, tout va bien.
Voilà, ils se sont convertis sans savoir qu'en réalité, ces gens-là continuaient de pratiquer leur rite. Ils avaient simplement changé les figurines de manière à jouer une espèce de faire écran un peu à la culture qui était la culture de l'époque, la culture religieuse de l'époque, qui était le christianisme.
Mm-hmm.
Donc, c'est pourquoi on appelle ces religions souvent syncrétiques. Donc, si vous voyez, par exemple, un rituel vaudou, et vous voyez une statue de Saint-Joseph ou une statue de la Vierge Marie, dites-vous que ça ne représente pas Saint-Joseph ni la Vierge Marie. Ce sont d'autres figures, d'autres déités du monde vaudou auxquelles on a accolé à ces statues-là. Donc, dans le cas du Paulo Mayombe, là où je voulais en venir, c'est que les médias qui ne connaissent pas bien la culture du magico-religieux, dès que c'est mauvais, ça devient tout sataniste. Ça, c'est okay. En réalité, dans le Paulo Mayombe, il n'y a aucun Satan là-dedans. Ça n'existe pas Satan dans l'univers du Paulo Mayombe.
Y a-t-il son équivalent?
Pas vraiment.
Même
en
pas?
En fait, dans le Paulo Mayombe, hein, la façon dont ça fonctionne, on a la religion officielle, qui est, disons, la religion propre.
OK. Hein,
appelons-la comme ça.
Celle qui est respectée,
qui est,
puis qu'on...
Qui est la Santeria, okay. Qui est une religion officielle. Évidemment, en Amérique du Nord, par exemple, c'est considéré comme une religion marginale.
Ouais.
Mais c'est une religion dans le sud des États-Unis, dans les régions qui sont très hispanophones,
ouais.
où des gens de beaucoup d'immigration qui nous viennent des Antilles, qui nous viennent ou bien soit de Cuba, ou qui viennent des îles, par exemple la Jamaïque et autres, on va beaucoup pratiquer la Santeria. Dans ces pays-là, la Santeria est très populaire. C'est sûr qu'en Amérique, ça l'est moins, sauf que c'est très présent dans les communautés hispanophones, disons
plus
ça comme ça.
Et plus près de la frontière.
Oui, voilà. Donc, par exemple, moi, quand j'ai enquêté sur ces histoires-là, notamment sur ces narco-satanistes, le leader de cette organisation-là, José Costanzo, avait grandi dans Little Havana, hein, qui est un quartier hispanophone très cubain de Miami. Donc,
okay.
Little Havana. Donc, cette culture-là, cette religion-là, elle est très omniprésente dans cette région-là, dans ces régions-là. On en retrouve également dans le sud de la Californie, où ça, sur les lignes frontalières entre le Mexique et les États-Unis.
D'accord.
Avant qu'on construise le mur.
Oui.
Mais c'est autre chose. Et il y a une version sombre. Hein. Généralement, le Santeria, bon, on pourrait dire que c'est un peu une religion un peu diète. On fait appel aux esprits, les orichas, on fait appel aux esprits.
Okay.
Et on s'adonne au sacrifice animal. Ce n'est pas mal vu dans la Santeria. C'est sûr que nous, ils ont égorgé...
C'est loin de nous, comme tu dis, il y a un lien culturel qu'on a pas.
Ils ont égorgé un poulet, ils se sont badigeonnés avec le sang du poulet. Ça nous paraît un peu étrange.
Mm-hmm.
Mais dans ces religions-là, le sacrifice animal est quelque chose qui est quotidien là, pour la pratique du rituel. Et il y a une version, mais dans le Santeria, on n'appelle pas, on ne fait pas appel aux esprits, aux orichas, parce qu'il n'y a pas d'orichas bon, pas bon. Hein? Il n'y a pas de diable. Là. C'est comme... On peut appeler les orichas pour leur demander quelque chose de bien, de nous protéger, de nous guérir de la maladie, d'apporter la bienveillance à nos proches. Mais évidemment, on peut toujours appeler les orichas parce que, bon, tu en as assez de ton conjoint, puis tu veux... Il y a une maîtresse, puis tu veux t'en prendre à sa maîtresse pour envoyer des mauvaises...
Ah ouais, OK, ça sert pour ça aussi, la justice populaire. OK, j'aime ça.
Donc, on peut appeler, disons ça, la justice populaire, j'aime bien l'expression. Donc, on peut appeler les orichas pour faire la justice populaire.
Hein, OK.
Donc, et là, à ce moment-là, on est dans un culte plus sombre. Et si on veut aller plus loin dans ce culte sombre, on peut aller jusqu'au sacrifice humain. Et si on va vers le sacrifice humain, c'est comme l'ultime sacrifice. Or, nos fameux adeptes du Paulo Mayombe, là, donc nos narco-satanistes, la façon dont ça s'est passé, c'est qu'on avait déjà de l'autre côté de la frontière, entre le Texas et les États-Unis, qui était une porte d'entrée facile pour le trafic du cannabis. Donc, on avait déjà des terres qui étaient cultivées avec du cannabis et on trouvait le moyen de la faire entrer aux États-Unis. Et il y avait donc évidemment des cartels qui s'occupaient de ces plantations. Et à un moment donné, l'un de ces cartels, celui de la famille Hernandez, d'ailleurs, il faut que je te raconte une anecdote, quand ils se sont fait arrêter, les frères Hernandez, la police les arrête, ils sont un peu surpris.
Okay.
La police arrive avec un « ouh, les lumières, oh, on arrête les frères Hernandez, se sont stationnés ». Là, tu penses que la police va passer tout droit. Mais là, elle se rend derrière leur voiture.
Oh, ouais.
Puis le policier sort, s'approche de leur fenêtre. Et là, les frères Hernandez sont un peu étonnés que les policiers les voient parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont invisibles.
Ah!
Ils ont fait un rituel qui, en théorie, aurait dû les rendre invisibles.
Mais non, mais nul est au-dessus de la loi et invisible. Hein?
Mais les policiers avaient un œil de lynx puisqu'ils les ont vus. Mais bon,
okay.
Donc on avait la famille Hernandez, qui était l'un de ces cartels qui faisait le trafic de la marijuana. Et éventuellement, ils ont commencé à avoir des guerres intestines entre plusieurs membres de la famille. Puis là, ben, il y y a eu quelques assassinats.
Règlements de compte.
Des règlements de compte et éventuellement l'expansion de la famille ou l'expansion des affaires de la famille ont commencé à péricliter. Et ils ont entendu, et là, ils ont décidé de faire appel à la magie. Et à la magie, il y avait ce Jésus Costanzo, qui Adolfo Jésus Costanzo, qui a grandi à Little Havana, qui était considéré comme un extraordinaire sorcier. Il avait grandi à Little Havana. Il venait de Cuba, de Porto Rico.
Oui,
il avait grandi à Porto Rico. Il était avec sa famille, s'était installé à Little Havana en Floride. Il est retourné ensuite, il est allé éventuellement à Cuba et il avait commencé. C'est un individu qui avait une très belle apparence et il agissait comme mannequin, hein, bon, pour des soirées. Il faisait du mannequin, là, du mannequinat, voilà. Mais c'était aussi un extraordinaire sorcier. Donc, éventuellement, les frères Hernandez ont décidé de faire appel à lui. Ils n'avaient entendu parler. À Mexico, il y avait des cartels qui étaient établis dans la région de Mexico où Costanzo avait également une maison. Et on avait entendu parler de lui. C'est un extraordinaire sorcier. On décide de faire appel à lui pour relancer les affaires de la famille Hernandez. Donc, il déménage. Il se rend finalement à Matamoros, qui est encore une fois là, tout près de la frontière avec les États-Unis. Et là, il va... On va commencer à pratiquer le Palo Mayombe et éventuellement, on va faire des sacrifices humains.
Okay.
Mais les sacrifices humains, ça, c'est assez amusant parce que tant qu'à sacrifier des humains, ben, aussi bien que ça nous arrange. Dans le cas de Costanzo, hein, il fait des rituels puis il dit aux gens, bon, parfait, on fait un rituel, on a besoin de sacrifier quelqu'un. Et ça donne qu'aujourd'hui, on a capturé un membre du clan rival.
Ennemi.
On pourrait sacrifier quelqu'un d'autre, mais puisqu'on a lui sous la main, on va sacrifier lui.
Est-ce que ça devenait une étape ultime, le sacrifice humain?
Oui, absolument.
À un échelon. Ouais.
Et eux pratiquaient en espagnol, on dit je dis brujeria, mais je sais que ça ne se prononce pas comme ça. Là. Ça s'écrit brujeria, mais ça se prononce brujeria, quelque chose comme
brujeria.
Ça. Brujeria. Ils font ces rituels-là. Et là, évidemment... Il y a une espèce de chaudron dans lequel on fait marmiter les restes humains.
Mmh.
Et là, on crée une espèce d'égrégore. C'est assez difficile à comprendre, qui s'appelle le Nagangwa. Et ça, c'est cet esprit-là très puissant qui va venir apporter, hein, qui intercède auprès des orishas pour apporter le bien ou le mal. Mais plus tu vas sacrifier des humains... Plus tu vas utiliser dans ce chaudron hein, des restes humains pour créer le Nagongwa, ben là, évidemment, plus ta puissance de sorcier en est décuplée.
OK.
Donc, et l'erreur de cette organisation, c'est qu'à un moment donné, Costanzo a perdu un peu le contrôle. Il s'est mis en tête que s'il sacrifiait un Américain, éventuellement, la puissance du Nagongwa serait plus grande.
Okay.
Et il a attendu durant le congé scolaire. Les jeunes traversent souvent la frontière. Là, ils vont à l'île à San Padre Island, qui est dans le sud du Texas, qui est durant la relâche scolaire qui est très, très populaire, là, la relâche du mois de mars.
Oui.
Et à ce moment-là, les jeunes, très souvent, ils vont traverser la frontière. On la traverse à pied. Hein? Il y a un pont hein, qui s'appelle le Rainbow Bridge. On traverse de l'autre côté, puis on est littéralement à Matamoros. Puis là, bien, évidemment, à Matamoros... Même si tu n'as pas 21 ans, tu peux boire de l'alcool.
Oh oui, c'est moins cher. Ils ne regardent pas trop.
Ils ne sont pas trop regardants.
Tant qu'il y a des touristes.
Donc, ouais, voilà. Donc, les jeunes traversent. Et à un moment donné, l'un de ces jeunes, Mark Elroy, va traverser et il va disparaître.
Jeune ado, enfant?
Oh non, c'est un jeune homme qui a 20 ans, je crois, okay, 19-20 okay. ans. Donc, c'est un jeune adulte. Il fréquente l'université du Texas.
OK.
Et il est d'ailleurs étudiant en médecine. Donc... Et il est l'image même un peu du Beach Boy. Tu vois, un peu le cheveu blond, le parfait américain, là, comme on l'imagine.
Oui, je le vois bien.
California Kid, là, tu sais, là, un peu. Et donc, il devient une proie. Il devient une proie très, très prisée par l'organisation. Hein. Il est étudiant, c'est un américain et c'est le parfait type américain Beach Boy. Donc, on va le kidnapper, on va l'amener sur cette ferme à Matamoros et on va le sacrifier. Erreur magistrale parce que C'est un Américain, donc tant et aussi longtemps que Costanzo se contentait de sacrifier des gens au sud de la frontière, donc des Mexicains, et très souvent des gens qui faisaient partie de groupes rivaux, bon, on s'en préoccupait pas. Mais avec un assassinat un Américain, là, évidemment, ça a déclenché une investigation à la part, d'un côté par les patrouilles
patrouilles douanes,
de la frontière. Là.
Ouais.
Et ensuite de ça, bien évidemment, le FBI s'est mêlé là-dedans. Et puis là, éventuellement, Costanzo, ça a été... avait un peu scellé son sort avec cette histoire-là parce que la police mexicaine a dû réagir. Et éventuellement, bon, on a fait une descente sur Rancho Santa Elena, qui était le ranch de la famille Hernandez. Et là, on a retrouvé le naguangua, le fameux pot avec les organes à l'intérieur. Et on a retrouvé un charnier où les corps avaient été ensevelis. Et parmi eux, bien évidemment, on a retrouvé le corps de Mark Elroy. Mais tout ça pour dire que ici, on est réellement dans l'univers du magico-religieux. La motivation du crime, elle est essentiellement de faire des sacrifices humains. Mais en même temps, il n'y a aucun diable là-dedans. Tu vois? Donc, on voit quand les journaux disaient « Bon, mais c'est des narco-satanistes. » Des satanistes de quoi, là? De quel satanisme parle-t-on? Parce qu'ici, il n'y a pas de satanisme. Donc, et c'est un peu ce lien culturel. Donc, on a tendance un peu à voir ces crimes à caractère occulte. Dans certaines communautés, on a tendance à les voir avec le prisme de notre culture judéo-chrétienne, alors que dans certaines communautés, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Il y a un crime fort intéressant. Je sais qu'il y a un film tout récent qui est sorti. On peut le voir, je pense, sur la plateforme de Netflix. C'est un film qui met en vedette Morgan Freeman. Et lui, il joue un anthropologue dans ce film-là. Et on enquête sur une série d'assassinats où il y a eu des mutilations. Et là, bon, l'enquêteur principal commence à s'interroger si on ne serait pas en présence d'une espèce de rituel magico-religieux.
Et ça s'appelle littéralement le rituel meurtrier ou The Ritual Killer, ben, 2023.
Ouais. Et ouais. Dans ce film-là, on découvre quelque chose que moi, il m'avait beaucoup intéressé. En fait, j'avais commencé à m'y intéresser en 2001 avec la découverte d'un corps dans la Tamise qu'on a appelé l'affaire Adam. On a retrouvé le corps d'un petit garçon qui devait avoir entre 5 et 8 ans à peu près.
Oh, okay.
On a retrouvé que le torse. Il avait été décapité et démembré. Et la seule chose qu'il portait à ce moment-là, c'était une espèce de short orange. Et comme c'est un petit garçon, les autorités, bon, évidemment, on aurait pu l'appeler John Doe, là, mais on lui avait donné le nom de Adam. Et bon, je ne rentrerai pas dans tous les détails parce que c'est assez sordide, mais éventuellement, on va découvrir que l'enfant, il y a deux raisons. C'est clairement un rituel. L'enfant était victime d'un rituel. Il y a deux possibilités. L'assassin n'a jamais été... On n'a jamais attrapé une personne responsable. Il y a eu plusieurs personnes dans le collimateur des autorités.
C'est encore un cold case aujourd'hui.
Ça demeure encore un cold case. Les deux hypothèses envisagées par les services de police, c'est que Adam a été sacrifié dans un rituel de Mouti. Et c'est d'ailleurs le film qu'on mentionne avec Morgan Freeman où on parle de Mouti. Donc, le rituel de Mouti, c'est un rituel occulte, disons-le comme ça. Mais je préférais le mot marginal. Hein,
okay.
Donc, on a des rituels. Il y a toutes sortes de religions en Afrique, au Kenya, en Ouganda et tout le reste. On a plusieurs religions qui se ressemblent, dans certains cas, qui ont des racines communes, mais qui diffèrent également dans des rituels. Et le Mouti est l'un de ces rituels un peu marginal où là, évidemment, c'est encore toujours un peu le même mécanisme. On fait appel à des esprits, à des forces occultes pour demander généralement des bienfaits, hein, pour que ça aille mieux, etc. Mais évidemment, on peut utiliser ces mêmes forces pour faire
le mal.
La justice populaire.
J'adore ce terme.
Et dans le Mouti, les organes humains sont liés à certains bénéfices, disons ça comme ça.
OK.
Par exemple, et plus la victime est jeune, plus le bénéfice est grand.
OK.
Donc, par exemple, je sais que c'est ça, le discours qu'on tient, il est sordide. Mais imaginons, par exemple, un vieux monsieur qui a perdu un peu de sa puissance sexuelle, qui veut retrouver ça, qui a beaucoup de sous, hein, parce que ça coûte cher. On fait appel à un sorcier.
Il y a un trafic là, oui, relié à ça.
Voilà. Donc, on va faire... Parce que dans le monde occidental, évidemment, en Afrique, on n'entend pas vraiment parler.
C'est loin de nous.
Et si ça se pratique dans des régions très rurales où il y a peu d'autorité et il y a peu de répression de ces crimes.
Hey.
Mais on comprend avec tous les mécanismes d'immigration, hein, on retrouve des gens qui sont originaires d'Afrique centrale, d'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Ouest, on en retrouve partout dans le monde occidental. Certains d'entre eux décident de continuer à pratiquer ces rituels.
Mm.
Et là, prenons mon exemple du vieux monsieur qui a perdu un peu de sa performance sexuelle, qui veut retrouver sa virilité d'antan. Bien, s'il a des sous, il peut payer un sorcier qui va s'adonner à un rituel de Mouti. Et le rituel de Mouti, si on va sacrifier un jeune garçon et on va utiliser dans le rituel ses organes sexuels, parce qu'en faisant, en sacrifiant l'enfant et en utilisant ses organes sexuels comme élément d'offrande au divin, bon, aux forces, aux déités, j'aime pas utiliser le divin dans le cas présent,
de déité. On comprend que c'est comme pas ça, là, ouais.
Dans les déités qui sont évoquées, ben là, évidemment, le vieux monsieur pourrait bénéficier de ce regain d'énergie que lui transmet le Mouti. C'est ce qu'on voit dans le film avec Morgan Freeman. Okay. Mais l'affaire Adam, à l'époque, en 2001, je me rappelle, c'est en septembre 2001, c'était quelques jours après le World Trade Center.
Drôle de moi, hein, cette année-là.
C'est... Et lorsque j'avais découvert cette histoire-là au début, évidemment, les policiers britanniques sont un peu dépassés. On trouve un corps dans les eaux de la Tamise sous le Tower Bridge. On ne se doute pas qu'on va être plongé dans un univers occulte. Aujourd'hui, en 2025, même si on n'a pas réussi à comprendre exactement quels étaient les mécanismes derrière le crime de Adam, appelons-le comme ça, les deux hypothèses les plus favorisées par les forces de l'ordre demeurent où Adam a été sacrifié dans un rituel de Mouti, ou encore Adam a été sacrifié dans un rituel qui faisait appel aux divinités locales africaines pour obtenir quelque compensation que ce soit. Donc, que ce soit par Mouti, le Mouti implique forcément l'utilisation d'organes dans le rituel, alors que dans d'autres rituels africains, on fait simplement un sacrifice humain, comme dans le Palo Mayombe. Dans le Palo Mayombe, il n'y avait pas d'organes spécifiques qui étaient utilisés pour le rituel. C'est simplement de faire un sacrifice humain, de faire couler le sang humain. Ce lien-là, quand on entre dans cet univers-là, on est vraiment transporté dans un autre univers.
Christian, me permets-tu? Écoute, il nous reste déjà genre 13 minutes d'émission. Mais je ferai une pause parce que ça m'amène à un des grands questionnements. Qu'est-ce qui fait que ce cas-là, que ce soit le meurtre d'Adam ou encore un autre à caractère occulte, va cocher des cases alors que toi et moi, on fait des émissions de Suspect X et on n'a jamais pensé nécessairement que ce serait un crime occulte et des fois, on a autant de violence sinon plus dans les crimes. Je fais une pause là-dessus. Okay. On revient dans quelques minutes. Et si les auditeurs veulent poser des questions aussi à Christian, on pourra le faire également au retour de la pause. Écrivez-nous au 88-670-9098.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission, Christian. Comme à chaque semaine, ça passe toujours trop vite.
Ah, barouche!
Puis on continue notre entrevue, notre discussion pendant qu'on est en pause. Tu avais une suggestion à faire justement en lien avec le Palo Mayombe aux auditeurs, un film qui a été fait à la fin des années 80 qui est assez représentatif du phénomène.
Oui, d'ailleurs, quand je te mentionnais cet étudiant, Mark Kilroy, qui a été tué par Adolfo Costanzo. Costanzo utilisait un film, entre autres, pour attirer les gens dans la secte, pour leur montrer un peu quelle était la force du Palo Mayombe. Et ce film-là, d'ailleurs, c'est pas le crime qui a inspiré le film, mais le film qui a été utilisé pour les crimes.
Mmh.
Et ce film-là s'appelle The Believers. En français, c'est Les Envoûtés. Ça met en vedette Martin Sheen. On est au début des années 80. Et dans ce film, qui est très, très bien, là, mais bon, il faut s'entendre, c'est un film assez lent dans le développement. Martin Sheen découvre une communauté de gens, des Blancs, là, donc de sa communauté, des Blancs de culture occidentale, qui font appel à des sorciers pour faire des pratiques de Palo Mayombe et assurer leur ascendance et leur montée, leur succès économique. Donc, il rencontre des gens, il découvre, lui est riche, lui est très populaire, et il va découvrir que derrière ces gens-là, ils ont tous un élément en commun. Leur premier fils a été sacrifié.
Hey.
Il a été sacrifié dans des rituels de Palo Mayombe. Et ça leur a donné ce pouvoir-là, en fait, ce succès-là. Costanzo va utiliser le film. Hein. En fait, il va utiliser une femme qui est à l'intérieur du culte, hein, appelons-le le culte. Dans ce culte-là, il y a une femme, Sarah Aldrete, qui, elle, évidemment, c'est une blonde sculpturale, évidemment, elle attire les hommes, et elle leur montre le film The Believers, Les Envoûtés, et elle leur dit, ben voilà, voici une bonne raison de vous joindre à nous, à notre culte. Et évidemment, Costanzo règne en roi et maître sur ce culte-là. C'est un univers, et je pense que ça se sent, c'est un univers qui me fascine.
Qui est fascinant par ça.
Je suis étonné quand je plonge dans cet univers-là. Mais je me rappelle, je te parlais de l'histoire de Adam. Je n'avais jamais entendu parler de ça, de ce rituel de Mouti. Et puis en 2001, à peu près en même temps que le crime se produit, quelques mois après, je commence le tournage de ma série Enquête sur les ovnis pour Z Télé.
Mm-hmm.
Et l'un des premiers voyages que l'on fait pour le tournage, c'est l'Angleterre. On doit aller en Angleterre.
OK.
Inutile de dire que j'avais pris mes contacts avec les policiers Scotland Yard. Donc, j'avais le dossier entre les mains et ils m'ont initié au Mouti. J'avais jamais entendu parler de ce rituel.
Et tu as eu l'occasion d'y aller pendant que le corps était encore chaud.
Ouais, j'ai même tenu les shorts orange que portait Ada. Et le dossier est énorme, cette histoire. Et je découvre tous ces rituels qui sont associés à ces pratiques magico-religieuses et qui entraîne malheureusement des sacrifices humains. C'est drôle parce que, là, je sais, je parle vite parce que tu me dis qu'il restait 13 minutes.
Oui, ça va, c'est correct.
J'aime tellement ça à parler, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Donc, on en parlera demain à la conférence. Mais ce qui est intéressant dans ces histoires-là, quand on plonge dans cet univers-là, on est complètement en déconnexion avec notre propre univers. Juste avant la pause, tu me disais, c'est curieux, parce qu'on a l'impression souvent que ces crèmes-là sont aux États-Unis ou en Angleterre.
Oui, mais pourquoi? Parce que c'est quasiment une blague que j'en fais à chaque fois qu'on a des criminels et des grosses histoires du crime. Là. C'est soit en Amérique, aux États-Unis particulièrement, terreau fertile, et l'Angleterre aussi ne donne pas sa place. Pourquoi ces deux positions géographiques-là particulièrement? Bon.
Il y a sans aucun doute des éléments d'ordre politique.
OK.
Par exemple, on sait aujourd'hui, depuis la chute de l'ancien bloc de l'Union soviétique, la révolution Gorbatchev, on a découvert qu'il y avait eu plein de tueurs en Syrie, en Union soviétique, dans l'ancienne Union soviétique. On n'en parlait jamais, ça n'existait pas. L'Union soviétique avait pour ordre, les tueurs en Syrie, c'est un phénomène américain.
Okay.
Donc, on diabolisait les Américains, des tueurs en Syrie, ça ne peut pas exister en Union soviétique.
On en a fait un phénomène culturel, en gros.
Voilà. Et en même temps aussi, dans d'autres pays, je pense par exemple des pays du Moyen-Orient, ça n'existe pas. On refuse même d'admettre que l'homosexualité puisse exister.
Ouais,
on est loin des tueurs en Syrie.
On peut faire d'autres règles.
Et en même temps, il y a aussi un aspect culturel. Ça peut paraître un peu sordide de dire ça, mais aux États-Unis et en Angleterre, il y a une espèce de façon hollywoodienne de qu'on consacre aux tueurs en série.
Ouais.
Hein? Des gens comme Ted Bundy ou Jack l'Éventreur, l'Éventreur du Yorkshire, le clown assassin John Wayne Gacy.
Oui.
Ces gens-là ont eu une couverture médiatique digne de vedettes d'Hollywood.
Qu'on est sur la ligne existentielle et on va dire éthique de la vénération.
Oui, et c'est pas certain que, par exemple, on prend par exemple un tueur en Syrie en France. Il y a eu des tueurs en Syrie en France qui sont passés à l'histoire. On en a déjà parlé dans Suspect X, on a parlé du docteur Petitot.
Oui.
Il y a Landru également qui, lui, trouvait dans des petites annonces des veuves riches, les tuait puis les faisait brûler dans un fourneau.
Et il s'inscrivait à une assurance vie. Hein, c'est toujours c'est ma phrase. Hein? Il y avait toujours une question d'assurance.
Et plus récemment, Guy Georges, qu'on appelait l'étrangleur de l'Est parisien, tueur en série, ces gens-là n'ont pas... Bon, Landru est passé un peu à l'histoire, là, parce que, bon, mais c'est un crime qui est lointain, qui nous amène au début du 20e siècle. Probablement que les années ont contribué à le rendre moins monstrueux qu'il l'était, en une espèce de vision peut-être plus romantique de ce Landru qu'il l'était en réalité. Il faudra probablement encore quelques décennies avant de nous rendre sympathiques Marcel Petitot.
Oui, oui.
Mais je pense que ces gens-là, quand on pense, par exemple, à ce Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, qui est un des crimes qui remontent aux années 90 de mémoire.
Okay.
ces gens-là n'ont pas eu une ils ont eu une grosse couverture médiatique, mais pas une couverture, disons, comme complaisante. J'utiliserais cette expression-là, complaisante.
Je comprends.
Tu sais, veut dire, quand on parlait de Guy Georges dans la presse française, c'était vraiment un personnage qui était monstrueux, puis on insistait sur l'aspect monstrueux de Guy Georges. Alors que du côté américain, ben, on va réussir presque à les rendre sympathiques.
Puis avoir de la pitié.
Ben, tu regardes, il y a des phénomènes qui sont difficiles aussi en même temps à comprendre. Je ne suis pas psychologue, puis là, peut-être, ce serait le temps pour un psychologue. Mais regarde la fascination que certaines femmes ont pour des tueurs en série. On parlait, combien de fois on a évoqué, par exemple, Richard Ramirez, qui est un de nos tueurs dont on va regarder le profil demain. Mais Richard Ramirez, durant son procès, bon, évidemment, après s'être fait refaire les dents, parce qu'il était connu, hein, dans les portraits robots qu'on avait de lui, on disait, c'est un individu, une vingtaine d'années, mais une très mauvaise dentition. Après son arrestation, il a profité des largesses de l'État. Il s'est refaire faire les dents.
Et là,
lorsqu'il se présente, sur le bras. Et quand il se présentait en cour, c'était quasiment un Antonio Banderas, là, un cheveu long, la dégaine de la vedette hollywoodienne.
Ted Bundy, connu pour son éloquence et son charme.
Et Ramirez, on le laissait porter ses lunettes fumées dans le tribunal. Et de temps en temps, il y avait ces espèces de groupies derrière.
Ouais.
Il baissait ses lunettes, jetait un coup d'œil par-dessus les lunettes, leur faisait des clins d'œil. C'est du Hollywood. Mm. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu, par exemple, durant le procès de Guy Georges. Bon, tu me diras que Guy Georges n'était peut-être pas aussi sympathique que l'était Ramirez. Hein? Bon, il n'y avait pas le même charisme. Mais c'est quand même des trucs qui sont complètement aberrants. Prends Charles Manson. Hein? Comment cet individu-là a eu droit à un traitement hollywoodien de la part de la presse? Et je pense que ce sont des phénomènes qu'on retrouve aux États-Unis, qu'on retrouve en Angleterre, moins au Canada et certainement moins en France, par exemple,
et
ou
ailleurs.
En Allemagne. Mais bon, mais en même temps, je comprends la fascination du public. C'est sûr que dans des crimes, bon là évidemment, si on parle de Ramirez, c'est des crimes qui ont eu une forte consonance occulte derrière les crimes, moins dans le cas de Ted Bundy. Mais je comprends que les gens soient fascinés par des individus comme ceux-là. Ça ne fait pas de nous des gens qui sont dérangés. Je pense que le fait d'être incapable de comprendre la motivation des tueurs, c'est un peu cette énigme qu'ils posent qui rend leur crime si fascinant en soi.
Et curieux. Puis j'aime aussi dire que je me conscientise que le mal, bon, c'est pas nécessairement le bien et le mal, mais tu sais que le pire de l'humain peut exister autour.
Ouais.
En 5 minutes, Christian.
Oui, oui,
je regarde le temps, je capote. Ma question la plus existentielle, parce que justement, crime occulte, ça rime souvent avec peur satanique. Règle générale, quand on prend vraiment le terme occulte dans sa propre définition, j'ai l'impression également que c'est une vague, un peu comme l'âge d'or hollywoodien a déjà existé. Est-ce qu'il y a encore des crimes occultes de nos jours?
Tu as mentionné les deux éléments, c'est-à-dire que le crime occulte, il perdure encore aujourd'hui. Les croyances des gens continuent d'être alimentées par des fantasmes occultes. On a parlé du Mouti, on a parlé du Palo Mayombe. Là, évidemment, on pourra toujours se dire, oui, mais ce sont des cultures étrangères ou nôtres. Mais le fait de croire des crimes, dans mon livre « Les tueurs de l'occulte 2 », par exemple, j'ai le cas d'un jeune homme qui assassine sa voisine parce qu'il est convaincu qu'il est un vampire, il doit boire son sang.
Ouais.
Mais ça reste des crimes qui sont sur une base beaucoup plus individuelle. L'individu va se mettre à déraper à partir de ses propres croyances dans l'occulte et va commettre un geste dans ce sens-là. La différence, et tu as dit le mot, c'est la peur satanique. La peur satanique est un courant, un mouvement qui s'est produit à la fin des années 70, mais particulièrement dans les années 80, où là, on voyait le diable partout. Et c'est sûr que l'Église agitait l'épouvantail du diable. Il y avait plusieurs éléments, j'en parle un peu dans ma conférence de demain. Il y avait des transformations sociales qui se produisaient, notamment, par exemple, l'émancipation des femmes, la pilule anticonceptionnelle, toutes sortes d'éléments qui ont joué sur le tissu social. Et en chair, les prêtres disaient, ben, pourquoi on a tous ces changements-là? On est en train de perdre nos bonnes vieilles valeurs judéo-chrétiennes des années 40 où les femmes restaient à la maison à s'occuper des enfants et les maris allaient travailler. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une dégradation du tissu social? Il fallait trouver un ennemi. Cet ennemi-là, comme l'Église avait une très grande importance à cette époque, c'était vrai au Québec dans les années 50, c'était vrai aux États-Unis, puis c'est encore vrai beaucoup aux États-Unis. Hein?
Oui.
C'est-à-dire, on voit mal un politicien canadien, par exemple, commencer à nous sortir des discours avec Dieu à toutes les phrases. Aux États-Unis, on n'a pas de problème avec ça.
Aux États-Unis, on prête.
In God we trust, si Dieu nous le permet, in God. Hein?
Je pense qu'on prête serment sur la Bible quand
Absolument.
On est...
Donc, Dieu fait encore partie énormément du paysage américain. Mais la peur satanique, comme les gens allaient à la messe le dimanche, et on essayait de trouver, de mettre un visage sur le mal. Mais le mal, c'était cette transformation sociale.
Okay.
Le diable est devenu soudainement l'ennemi. C'était le masque qu'on lui a donné. Mais il faut se méfier. La peur satanique s'est endormie, mais elle n'est pas morte. Il suffit simplement de secouer un bon épouvantail et crois-moi, les gens vont se mettre à croire à nouveau que quelque part dans l'ombre, des forces occultes agissent. Ça sera peut-être plus le diable, ça sera peut-être les francs-maçons, les Illuminati, les reptiliens. Mais éventuellement, cette peur-là, elle existe toujours,
okay.
Elle est omniprésente. La peur de l'inconnu. Et quand on a peur de l'inconnu, on est prêt à faire n'importe quoi.
Elle attend son ambassadeur en réalité.
Absolument.
Comme nous, on attend avec impatience ta conférence demain. Certains seront présents au Théâtre de poche de l'Université Laval. Et j'ai vu aussi sur ton site que tu affichais complet pour le 17 mai à Montréal.
Absolument, oui.
Tu n'auras pas le choix, Christian, de faire une prise 2 pour ta conférence à Québec, j'en suis persuadée. Et pour vous donner l'eau à la bouche, on a un exemplaire de Tueur de l'Occulte 2 à remettre à un auditeur qui pourra peut-être être là demain ou peut-être pas non plus. Mais je veux offrir et probablement Christian aussi veut offrir ce livre-là à un fidèle auditeur des Radio X-Files et de Suspect X également. Ça va se faire par texto, oui, pendant la pause au 88-670-9098. Christian, je te dis à demain.
À demain.
Et lundi prochain, Suspect X, on se gâte encore une fois. Je pense qu'on y va avec du triple A dans les tueurs en série.
Oui, oui.
Ed Gein.
Ed Gein. Le modèle derrière Letterface.
oui. Puis ceux qui, justement, les détails le détourneraient le regard sur des photos, on y va dans le assez explicite lundi prochain pour un public averti, mesdames, messieurs. Bon week-end à vous et Christian, pareillement, bonne conférence demain.
Merci.
J'ai très hâte d'y être.